Bonjour à tous. Nous allons poursuivre encore dans Colossiens et on va voir, au fond, pourquoi Paul insiste tant sur notre ancienne condition. Et je sais que des fois, ça agresse un petit peu nos petites personnes, là, mais je pense que pour bien saisir l'Évangile, il faut bien saisir le problème, car la solution va être appréciée que dans la mesure que je comprends le problème. Si je nie le problème, comme Jean nous le rappelle, si nous disons que nous n'avons pas péché, on fait Dieu menteur. Parce que ça commence d'abord à servir Dieu en esprit et en vérité. La vérité doit nous affranchir d'un mensonge, du père du mensonge. Le diable est un menteur depuis le début, et tout mensonge, au fond, tout ce qui est tordu, tout chaos qui est amené, le Seigneur veut nous en délivrer. C'est pour ça qu'il nous est dit aussi que Paul va prendre ce verset de Genèse 1 à la création. Il dit que la lumière, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut dans nos cœurs. Donc le lieu des ténèbres, c'est le cœur humain. Jérémie nous le rappelle dans Jérémie 17, qui connaît le cœur de l'homme? Il est tortueux par-dessus tout. Donc notre côté tortueux nous égare parce qu'on ne peut pas vraiment bien saisir. Et le plus grand danger se trouve pas nécessairement dans le mal grossier. Je veux dire, c'est assez évident que quand c'est mal, ben c'est mal. Par contre, la subtilité du bien sans Dieu est extrêmement dangereuse. Mais vu que c'est bien, c'est dur à voir le problème dans le bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ça par rapport à Colossiens encore. On remet aussi au Seigneur et puis je lis le texte après. Alors Seigneur, s'il vous plaît, viens à notre secours continuellement en nous éclairant. Seigneur, il n'y a que toi qui peux parler à nos cœurs. Pas juste Seigneur Dieu à notre intelligence, mais Seigneur Dieu plus profondément. Vraiment que tu puisses nous donner, Seigneur Dieu, de voir dans ta lumière les choses. Ta parole est la lumière. Et cette lumière est essentielle. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui illumine notre entendement de cette lumière qui est ta parole. Viens à notre secours, afin qu'on soit de plus en plus, Seigneur Dieu, d'abord, des gens qui marchent de manière digne de toi, qui puissent vraiment proclamer ta gloire, ta bonté, et qu'on puisse manifester aussi une vie dans ta paix, dans ta joie, ce qui devient vraiment notre force. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup, Père, dans le précieux nom de Jésus, de venir nous visiter encore. Amen. Donc, le passage se trouve toujours dans Colossiens, au chapitre 1. Et puis, on va voir, ça va faire suite un peu à ce qu'on avait vu la semaine passée, des paroles certaines, des choses que Paul dit, rappelez-vous, répétez-vous ces paroles certaines. Donc, après avoir parlé de notre réconciliation dans ce fameux cantique à deux strophes, il va dire au verset 21, Colossiens 1, 21, « Et vous, » parle aux Colossiens ici, ça peut être aussi nous, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Donc, c'était Colossiens 1, versets 21 à 23. On va regarder ça maintenant ensemble dans cette première partie. Vous remarquez, il insiste encore. « Et vous qui étiez autrefois étrangers, donc, séparé. C'est une autre expression aussi pour dire que quand Paul dit « nous étions morts », tu sais, dans nos fautes. Regardez dans Éphésiens. Parce que dans toutes ses lettres, il rappelle toujours la condition en dehors de Jésus-Christ. Et souvent, c'est assez dur la manière qu'il en parle. Il dit ici, attendez qu'on trouve le passage. OK, verset chapitre 2. Éphésiens 2, verset 1 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc, ça ne veut pas dire qu'on était dans la tombe je sais pas moi, le mot mort dans les Écritures, ça veut surtout parler d'être séparé. Par exemple, quand quelqu'un physiquement meurt, eh bien, c'est qu'il est physiquement séparé de son corps physique et son âme va partir vers l'éternité. Soit dans la maison du Père, comme Jésus dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, dans Jean 14, ou une personne qui a rejeté Christ, qui a toujours fui dans les ténèbres la lumière, qui mettait en lumière ses œuvres qui étaient mauvaises, eh bien, si on meurt sans Christ, vu qu'on a préféré les ténèbres, alors on descend dans les ténèbres pour l'éternité. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, séparés de Dieu, morts en ce qui concerne Dieu. Tant qu'on n'a pas reçu la nouvelle vie, qu'on n'a pas été ramené à la vie avec Jésus-Christ, comme Paul l'enseigne, nous sommes séparés de Dieu. On a une activité, et puis on peut même se donner l'impression d'être religieux, par exemple. C'est là qu'on va voir pourquoi Paul a été fait ce ministre de l'Évangile d'une manière si efficace. Il a été, à la limite, pour défendre et approfondir la théologie du salut, plus efficace que même l'apôtre Pierre et les autres. Parce que vous vous rappelez, Pierre a craqué devant des gens qui venaient de Jérusalem, des Juifs qui avaient cru, qui venaient normalement, qu'on dit, de la part de Jacques, un des anciens de l'Église à Jérusalem. Et puisque ces gens-là mettaient de l'avant tout le ritualisme de la circoncision, la nourriture, toutes ces choses-là, même Pierre, intimidé par on pourrait quasiment dire des pharisiens qui se déclaraient chrétiens, qui se déclaraient croyants en Christ, mais encore une fois dans l'esprit du pharisien. Au point que tous les circoncis qui étaient à Antioche, quand ces hommes sont arrivés où Pierre était, on se sont retirés des païens, même Barnabas, l'homme de la grâce. Et c'est là que Paul va se lever pour vraiment comme mettre un couteau final, tu sais, dans la discussion, dans le point. Il va exposer Pierre devant tous, pas parce qu'il n'a pas respecté Matthieu 18, mais parce que finalement, il est en train de dire, Pierre, tu es une autorité pour ce message, alors je ne peux pas permettre que toi qui n'as jamais pu, on n'a jamais pu vivre de cette loi. Et là, tu veux finalement forcer les païens à venir sous cette loi qu'on n'a jamais pu, ni nous, ni nos pères, porter? Et c'est un pharisien, un ex-pharisien, qui va défendre la grâce de Dieu plus que n'importe qui. Et on va essayer de voir pourquoi maintenant. Donc, quand il dit aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, encore le fameux malin, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Avez-vous remarqué ici, l'initiative, elle est entièrement de Dieu. Mais, en contraste avec enfants de colère qu'on était comme les autres, là, Paul s'inclut, il inclut les Juifs. Les Juifs se distinguaient toujours des nations. Là, Paul va dire, non, non, nous, Juifs, comme les nations, nous étions par nature, comme tout le monde, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, ça c'est tellement la bonne nouvelle. L'amour libre, un amour qui n'a pas besoin finalement qu'on mette nous de l'eau dans la pompe pour que finalement ça puisse partir l'amour de Dieu pour nous. Un amour libre, Dieu a décidé de nous aimer de toute éternité. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Donc, c'est à cause de sa grande miséricorde, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il y a un déclenchement étrange dans la conversion de quelqu'un. Tu es touché par l'amour que Dieu a pour toi. C'est comme si il nous rejoint en disant, je t'aime. Et ça nous déstabilise parce qu'en réalité, nous, surtout l'aspect pharisien de nos vies, d'accord? Eh bien, on cherche à travailler pour endetter, on pourrait quasiment dire, là, c'est peut-être un peu extrême, là, mais on travaille pour endetter l'autre, être obligé de nous aimer. Vous comprenez? Ça, c'est... Le pharisien travaillait jour et nuit pour être reçu de Dieu. Rappelez-vous le jeune homme riche qui vient voir un jour Jésus et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour mériter la vie éternelle, pour la recevoir? » Jésus dit « Ben, observe la loi. » « Mais je le fais depuis que je suis tout petit. » Et Jésus le regarde et il l'aima. Et c'est vrai que le jeune homme cherchait, par l'observation de la loi, de recevoir le mérite de cette vie. Mais Jésus veut vraiment le délivrer. Parce que en qui le jeune homme espère pour avoir la vie éternelle? Pas en Dieu. Il espère de rencontrer toutes les exigences afin de ne plus donner le choix à Dieu de le refuser. Mais il y avait encore cette impression, c'est pour ça qu'il est honnête le jeune homme quand même. Comment ça se fait qu'après avoir tout fait ce que je dois faire, j'ai toujours pas cette assurance d'avoir reçu la vie éternelle? C'est qu'en réalité, il est dans un cycle qui, on pourrait quasiment dire, le rend de plus en plus profondément séparé de Dieu. En d'autres mots, ça l'empêche de voir sa division d'avec Dieu et ça lui donne l'impression que Dieu va sauver les meilleurs. Dieu a mis un programme et si les meilleurs y arrivent, il va les sauver. Mais ce n'est pas du tout le plan de Dieu depuis le début. Mais Dieu riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous, le but finalement de notre salut, c'est finalement de démontrer qui Dieu est. Mais nous, par le péché, on est devenu des adorateurs de la créature. On est obsédé de nous. Et c'est comme un message étrange. Comment toute la gloire à Dieu, lui seul? Et le Seigneur dit oui. Le péché produit une impression. Le prince des ténèbres a produit une impression. Son impression, son interprétation t'envahit. Et c'est pour ça qu'il nous faut demander au Seigneur continuellement, « Seigneur, donne-moi ta parole. Éclaire-moi. » Parce que par ma propre sagesse, ma propre intelligence des choses, je ne peux que extérieurement réussir à donner l'apparence finalement d'un succès, mais intérieurement, je suis de plus en plus loin de toi et de mon prochain. Donc, il nous sauve afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, si on revient à notre texte, il nous rappelle encore une fois, « Et vous, Colossiens, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Ici, Paul souligne que c'est le corps de sa chair, son incarnation, parce qu'il va aussi, n'oubliez pas, dans ce livre des Colossiens, il va corriger des erreurs qui semble vouloir s'intégrer ou rentrer dans l'Église des Colossiens. Entre autres, dans une forme de mysticisme, il y avait le docétisme. Donc, c'était finalement une croyance que quand Jésus est venu, il y avait l'apparence d'un corps, mais c'était qu'un esprit. Et puis, les apôtres vont continuellement insister en disant « Non, non, il est venu vraiment dans une chair véritable, comme la nôtre, mais sans péché. » En d'autres mots, il est venu dans un corps, il s'est incarné dans un corps humain, mais quand on dit sans péché, c'est qu'il était non séparé de Dieu, contrairement à nous tous qui sommes nés d'Adam, on est tous nés séparés de Dieu. Et sous l'emprise, sous les ténèbres du prince de ce monde, comme on l'a lu. Et comment Jean nous dit, n'oubliez pas, le monde entier gît sous la puissance, le monde entier habite sous cette puissance du diable. Pourquoi? Parce que après encore, je sais que je répète toujours, mais c'est une parole certaine, Je répète toujours ce point-là. Rappelez-vous, quand l'homme et la femme ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que Dieu demande à l'homme finalement, où es-tu? L'homme lui répond encore une fois, j'étais nu, je me suis caché. Et le Seigneur lui demande, qui t'as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Qui t'a appris que t'es nu? L'homme n'a pas changé. Il y a toutes sortes de gens qui essaient d'expliquer qu'est-ce que l'homme avait dans le jardin avant. Je crois pas. Moi, je pense que la parole nous dit simplement au chapitre 2 de Genèse, ils étaient tous deux nus. Donc, il n'y avait pas un genre d'habit, Alors, si je me fie au texte, ils sont nus, point final. C'est pas leur état qui change, c'était leur situation face à Dieu. Ils ne sont plus dans la lumière de Dieu pour se voir, se connaître dans l'interprétation de Dieu. Ils sont maintenant passés dans le monde des ténèbres et donc la même personne, dans la même nudité, soudainement est honteuse. Et il lui manque non pas un habit, elle n'avait pas un habit avant. Le texte, moi si je me fie au texte, le texte dit « ils étaient nus ». Et ils se font mutuellement pas honte l'un l'autre. Maintenant qu'un autre a pris la place de Dieu dans notre vie, c'est ce que Jean veut nous rappeler, le monde entier habite sous la puissance du malin, c'est son interprétation des choses. Maintenant, c'est pour ça que Jésus dit, à moins que le Fils vous donne la liberté, vous affranchisse, vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Même avec tout le bien qu'on essaie de faire, c'est un bien mécanique, un bien externe, qui essaie de couvrir la division, la mort en nous face à Dieu. Donc, ici, quand il dit « on est revenu à la vie avec lui », par son corps de chair, et puis c'est à bien se rappeler ici, parce que quand il va parler aussi du corps de Christ qui est l'Église, inévitablement, il ne parle pas de son premier corps d'incarnation, mais il parle d'un nouveau corps qu'il appelle comme un corps humain, le corps de Christ dont Jésus est la tête. OK, vous le gardez juste un peu plus loin, par exemple, parce qu'au verset 24, il dit... Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, dans sa personne humaine, pour son corps, virgule, qui est l'Église. Donc, c'est en contraste, ça, avec son corps d'incarnation, qui est venu payer la dette, son corps de chair, de sa chair, pour maintenant avoir son corps qui est l'Église. Bon. Donc, si on regarde encore une fois pourquoi Paul a été fait ministre de cet évangile. Si on marque dans 1 Timothée, quand il enseigne à Timothée, son jeune disciple, il lui rappelle au chapitre 1, verset 15, en disant « c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier, sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Donc, Paul devient un modèle, non pas un modèle comme un pharisien, mais au contraire, c'est un pharisien qui vous dit comment c'est pas le chemin des pharisiens qui sauve. Donc, parce qu'il dit lui-même, il dit au verset 12, juste un peu avant, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi, qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, virgule, dans l'incrédulité. » Paul déclare clairement, il ne croyait pas du tout à l'œuvre de Dieu pour lui, parce que toute sa foi reposait dans l'œuvre que lui faisait dans sa religion pour Dieu. Donc son incrédulité le gardait ignorant. C'est pour ça que le Seigneur, quand il va arrêter ce Saul de Tarse, l'apôtre Paul avant sa conversion sur la route de Damas, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi t'acharnes-tu si violemment de ce que je sois miséricordieux et que je fasse grâce aux pécheurs? » Paul était dans un système de pensée du pharisien, l'homme de la division par excellence. Donc, en contraste, parce que Paul sait très bien qui il était, regardez ce qu'il nous dit dans Philippiens au chapitre 3, quand il fait la description de sa personne, parce qu'il va mettre en garde contre les faux ouvriers. Il dit, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » C'est quoi toujours les mêmes choses? Toujours la condition avant, en Jésus-Christ par la miséricorde de Dieu, nous sommes maintenant réconciliés. Donc, il répète sans arrêt. C'est pas qu'il veut être méchant avec nous autres, mais il veut pas qu'on oublie d'où on vient, afin que notre foi repose entièrement sur l'œuvre de Jésus-Christ, pas sur la nôtre, pas sur nos œuvres. « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Vous voyez ici qu'est-ce qu'il vient de montrer? Le culte à Dieu en esprit, ça vous rappelle quoi? Quand Jésus parle à la Samaritaine, est-ce que vous vous rappelez dans Jean 4? Qu'est-ce que Jésus dit à la Samaritaine? Parce qu'elle, elle voulait l'amener encore une fois sur le terrain des œuvres. Alors vous, vous dites, faut adorer à telle place, nous autres, ils nous ont dit telle affaire. Et Jésus lui dit, dans Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. » Quand Jésus prononce ces paroles, il dit, « L'heure vient, et elle est déjà venue. » Pourquoi? Car il est là, humainement. Il est l'homme réconcilié, il est l'homme non séparé de Dieu, il est l'homme qui s'en vient payer la dette afin de nous ramener de la division vers l'unité dans son esprit. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, comme il dit ici, notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc, on rend un culte par l'Esprit de Dieu. Comment? Un peu comme cette semaine, on a intercédé, prié pour être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence que donne le Saint-Esprit qui nous a été accordé à cause de notre nouvelle naissance. Et c'est comme ça qu'on rend à Dieu le culte qui lui est agréable, de faire sa volonté, comme Jésus l'a appris encore aux disciples dans le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, Seigneur, comme au ciel. Donc, ici, Jésus rappelle que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en vérité, en esprit et en vérité. La vérité, c'est ta parole et la vérité. Le Seigneur, lui, va nous donner la vraie définition des choses, le vrai pourquoi des choses, le vrai but des choses. Tout est par lui et tout est pour lui. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et ses disciples à l'époque dépendaient de Jésus totalement à côté d'eux, car ils n'avaient pas encore l'Esprit en eux. Ils dépendaient de la parole du Seigneur Jésus à l'extérieur d'eux, mais ça c'est juste temporaire. Parce que, vous vous rappelez, quand il parle à la femme, les disciples étaient partis au village, on est en Samarie, et là ils vont revenir, ils le voient parler avec une femme, ils trouvent ça étrange, mais ils n'osent pas lui dire que, « qu'est-ce que tu lui demandes, pourquoi tu parles avec elle? » Il respecte Jésus, mais ils ne comprennent pas toujours. Mais un peu plus loin, les disciples disent, « Ok, Seigneur, vite, mange. » Mais Jésus, verset 32, toujours de Jean 4, « Mais Jésus leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ça, c'est tellement encourageant d'entendre ça. Il leur dit, « Vous, là, vous ne mangez pas encore cette nourriture qui me soutient, qui me donne ma raison d'être, qui me fortifie. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » La preuve, quelle était la grande nourriture que les apôtres voulaient toujours manger? Ben, celle de la chair encore, même si Jésus était avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient qui était le plus grand, qui a le plus de mérite. Et c'était leur grande discussion entre eux autres tout le temps. Les disciples se disaient donc les uns avec les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Son œuvre. Comment on peut sans arrêt aller revoir Dieu pour dire, « Écoute, Seigneur, tu es tout puissant. Tu nous as réconciliés par ton sang. Tu es mort pour nous pour payer notre dette afin de nous réconcilier, nous accorder maintenant ton esprit afin qu'on puisse marcher dans tes œuvres. Seigneur, délivre-nous de nos projets. Délivre-nous de cette hantise, cette incrédulité qui n'ose pas croire, parce que incrédule qu'on est, « Ah non, Dieu ne m'aime pas assez, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez ci, je suis pas... » Pourquoi Dieu ne t'aime pas assez? Parce que tu ne mérites pas assez d'être aimé. Ce n'est pas sur la base de mon mérite que Dieu m'aime. C'est la base de sa miséricorde qui l'amène à m'aimer. Selon sa grande miséricorde, sa grande bonté, Dieu nous en rend... Ça va être la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a un combat entre ma chair et l'Esprit de Dieu en nous. Ma chair va toujours être un petit peu intimidée en essayant, oh, OK, tu sais. Et les apôtres nous ont rappelé que même après étant vraiment ayant reçu l'Esprit de Dieu, Pierre, comme j'ai rappelé plus tôt, il va quand même craquer devant les pharisiens, ce que Paul appelle les mauvais ouvriers, ceux qui vont amener un programme pour mériter plutôt que de découvrir comment tu découvres la volonté de Dieu dans une réconciliation, afin que tu puisses commencer à marcher dans quelque chose qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus, je sais pas comment vous dire ça, tu marches avec un Dieu qui justifie et non pas un Dieu qui va évaluer si c'est assez juste. Si on discerne sa volonté et qu'on y marche, on marche dans quelque chose d'authentiquement sa volonté. C'est une œuvre authentique. Et puis, vous vous rappelez, il y a plusieurs années, en passant, quand il fait la description de... quand il fait sa propre description, Paul, le Seigneur s'est choisi... Un gars comme Pierre pourrait quasiment dire, face à des hommes qui ont réussi leur vie, des grandes études, tu sais, parce que les autres étaient reconnus comme des gens sans instruction, vous vous rappelez? Face aux pharisiens, les scribes, puis tout ça. C'était des paysans du Nord, et puis, mais ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Pierre, peut-être toute sa vie, a transporté le complexe de son ignorance, mais ça, c'est sa chair. Sa force, son enthousiasme, sa foi, c'est toutes les fois qu'il regardait à Christ. Vous vous rappelez? C'est à cause, il t'a appelé. Pierre, tu as été appelé par le Seigneur. Tu te rappelles quand tu étais dans la barque, il t'a fait une démonstration, tu avais dit, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi. Et qu'est-ce que tu as entendu? Jésus te répond, viens. Et Pierre, pendant un certain moment, en débarquant de la barque, a marché sur les eaux, pas par sa propre capacité, parce que le Seigneur a la puissance d'accomplir ce qu'il demande. Dieu va toujours nous donner ce qu'il nous demande. Et Pierre, tant qu'il a regardé au Seigneur, ben, physique on pourrait dire, là, tu sais, qu'il s'est attendu à lui, il marchait sur les eaux jusqu'à ce qu'il détourne son regard de Jésus, qui a commencé à réaliser le vent, l'eau, et là, il a sombré, parce que c'est comme s'il essaie de reprendre la situation en main selon les faits qu'il voit, plutôt que selon la parole qui déclare « Viens ». Et c'est pour ça, pour nous, il faut continuellement demander à chaque jour au Seigneur, notre nourriture, c'est de faire ta volonté, toi qui nous envoies. Parce que maintenant, Jean rappelle dans son évangile un peu plus tard, « Maintenant, comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Je serai avec vous tous les jours. » Le Seigneur Jésus est avec son Église. Mais nous, dans l'Église, on est soit déjà en train de regarder à lui, marchant sur les eaux, si on prend l'illustration, ou on a détourné les yeux de Jésus qui justifie, et là on regarde les vices et vertus, on regarde les capacités, on est en compétition, comme Paul dit, ne vous provoquez pas à une vaine gloire. Tant qu'on n'aura pas trouvé sa volonté, c'est vain. Donc, quand il fait la description de lui-même, ce pharisien, qui est devenu vraiment un anti-pharisien. T'sais, pas quelqu'un qui prêche le péché, parce qu'il dit, rappelez-vous, on m'accuse même ceux qui n'ont rien compris dans l'Épître aux Romains, qu'on dit péché pour que la grâce abonde. Il dit jamais de la vie. Mais les gens, c'est tout ou rien. Ils n'ont pas compris, finalement, le problème du pharisien. Parce que Paul, quand il dit, ne voulez, t'sais, je vous marche pas d'écrire, il dit, car les circoncis, c'est nous. T'sais, c'est nous. Parce qu'il dit verset 4 après. Philippiens 3, 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église. En d'autres mots, si c'est dur pour moi, tu ne l'auras pas gratuitement de ton bord. C'est pour ça qu'il persécutait si violemment l'Église. Parce que finalement, ça lui était complètement incompréhensible pour lui. Que c'est comment vous avez tout reçu gratuitement? Vous pensez avoir la vie éternelle comme ça, vous, des gens de rien, simplement parce que vous avez cru en ce Jésus qui, en plus, pour Paul, était une incompréhension tant que la croix n'a pas été révélée, qui est devenue sa gloire après. Comment vous mettez votre confiance dans un homme pendu au bois, selon la loi de Moïse, déclaré publiquement par Dieu un maudit? Vous déclarez le béni de Dieu un maudit? Paul ne comprenait pas que Jésus se chargeait de toute notre malédiction. Et c'est pour ça qu'il a dû être cloué au bois publiquement, pour être déclaré publiquement par le Père maudit de nos transgressions, de nos péchés. Il dit donc, en passant, irréprochable. Par rapport à quoi? À l'égard de la justice de la loi. Le but de la loi, c'était pas de rendre Paul capable de dire à Dieu, maintenant, tu me dois la vie éternelle. Non, le but de la loi, s'il avait bien compris, c'était de le faire réaliser. Comment ça se fait que ça me demande tant d'énergie pour faire ce qui est bien, mais je peux faire si facilement le mal? D'où vient cette bizarre, tu sais? Bref, tout ça pour montrer finalement que vraiment le pharisien, Paul, est devenu le ministre de l'Évangile d'une manière absolument incroyable. C'est pour ça qu'il va toujours insister pour nous rappeler en disant, faites attention, perdez pas de vue l'œuvre de Christ pour vous. Réjouissez-vous. Puis, vous rappelez finalement, M. Bonhoeffer, mon ami, j'ai hâte de le voir au ciel pour aller une petite jasette avec lui. Puis, je vais juste y rappeler comment le Seigneur s'est servi de ses ouvrages pour vraiment m'amener à mieux comprendre d'abord c'était quoi le péché et deuxièmement de quoi on est sauvé quand Dieu nous sauve. Parce que Jésus n'a pas fait de son école une école supérieure aux pharisiens, même en apparence, selon les principes de la loi, l'apparence de justice. Les apôtres n'étaient pas sur un programme d'apparence. Quand, par exemple, les pharisiens et même les disciples de Jean jeûnaient, belle œuvre quand même, tu sais, ça paraît bien, surtout là, quand les gens montrent publiquement qu'ils jeûnent, eh bien, Jésus, lui, mangeait avec ses disciples. En leur disant, non, vous n'avez pas compris, les gars. Le jeûne, c'est supposément être un moment où vous vous humiliez pour chercher la face de Dieu. Ils sont avec moi en ce moment. Vous n'avez pas compris? Malgré tous les miracles que Jésus faisait, toutes les démonstrations qu'il faisait, il y avait un aveuglement chez le pharisien, parce que plus une personne se concentre sur sa propre personne pour devenir quelqu'un, eh bien, moins elle voit les autres, au point que même si le Seigneur passe dans le bout, elle ne verra pas le Seigneur. C'est le danger de l'obsession du narcissisme spirituel, dans le sens d'être concentré sur nous, et ce n'est pas l'amour qui nous motive, c'est l'ambition d'être le meilleur. Et Bonhoeffer donne un point très intéressant ici. Entre autres, dans son chapitre sur le pharisien, si ça vous tente de le relire, c'est vraiment, mais tellement vraiment bon. Il montre la différence entre Jésus et les pharisiens. Et il montre finalement que le pharisien, c'est un anxieux. C'est quelqu'un qui est dans des conflits sans arrêt dans sa tête pour toujours trouver entre plusieurs possibilités qu'est-ce qui pourrait être le mieux, qu'est-ce qui veut dire. Il doit en faire un épuisement total. Mais Jésus, il est dans une paix absolument incroyable, lui. Malgré tout ce qu'il fait, il est dans une paix. Parce qu'il cherche et il trouve, parce qu'il n'est pas séparé du Père, il trouve la volonté de son Père. Ce que mon Père dit, je le dis. Ce que mon Père fait, ce que je vois mon Père faire, je le fais. Je ne suis pas séparé de mon Père, je suis l'image de Dieu et je suis à sa ressemblance. Il n'est pas séparé par le péché de Dieu le Père. Donc, quand le Seigneur dit, pour juste montrer finalement la division, il dit « Ne jugez point afin de n'être point jugé. » Vous vous rappelez dans Matthieu 7, verset 1. Il dit « Cette parole n'est pas une exhortation à la prudence et à l'indulgence dans le jugement du prochain que les pharisiens, eux aussi, connaissent. Mais elle frappe au centre vital de l'homme connaissant le bien et le mal. » Cette parole de celui qui est un avec Dieu, donc Jésus, qui est venu non point pour juger mais pour sauver, Jean 3, 17, pour l'homme de la division, le bien consiste dans le jugement dont la norme suprême est l'homme lui-même. Parce qu'un peu plus bas, il va définir en disant, il va s'expliquer un peu plus, il dit, celui qui juge ne parvient jamais à l'action. C'est-à-dire que même ce qu'il appelle son action, fût-elle largement suffisante, n'est jamais que jugement, blâme, accusation et condamnation de l'autre. L'action du pharisien est bien jugement du prochain, en ce qu'elle est une tentative de siéger en public, même sans autre témoin que lui-même. Elle veut être appréciée et reconnue bonne, ne serait-ce qu'à ses propres yeux. Et Jésus dit dans Matthieu 23, à leur sujet, au verset 5, « Ils font toute leur action pour être remarqués des hommes. » L'œuvre du pharisien n'est qu'une certaine manière d'exprimer sa connaissance du bien et du mal, et donc sa division d'avec lui-même et ses semblables. C'est tellement bon ce qui... La manière qu'il l'explique, là, c'est génial. Il va sortir un autre passage, toujours dans Matthieu 23, bon, enfin, il fait remarquer, il dit, avez-vous remarqué que, il dit, c'est pourquoi une profonde contradiction existe entre les paroles et les actes du pharisien. Ils disent et ne font pas. Ça, c'est Jésus qui dit des pharisiens. Ils disent, mais ne font pas. Ce n'est pas que les pharisiens restent inactifs comme s'ils étaient paresseux en bonnes œuvres. Le contraire est vrai, mais leurs actes ne sont pas authentiques. Vous vous rappelez, ceux qui ont suivi le cours d'éthique il y a une couple d'années, sur l'action véritable et la fausse action? Car l'action qui devrait surmonter la division de l'homme en ce qui concerne le bien et le mal n'atteint pas son but. Elle ne parvient qu'à aggraver encore cette division. Comment? Plus tu réussis dans ton système, plus ça produit en toi le juge de ton frère. Plutôt que d'être motivé par l'amour au service, tu deviens le juge et tu méprises. Les gens qui ont souvent eu des temps violents, qui essayent de s'en sortir par eux-mêmes, vont essayer de faire des œuvres toujours dans une forme d'auto-justification pour qu'ils puissent reprendre leur position de juge. Le Seigneur ne nous donnera pas une position de juge par nos actions. Et c'est facile de le voir, parce qu'un peu plus loin, il va rappeler que le pharisien, son action est au fond toujours une manifestation du jugement. Par exemple, en tant que croyant, si ma motivation ne débouche pas d'avoir connu la volonté de Dieu, supposons dans mon ministère, on va dire, d'annoncer la bonne nouvelle, OK? Bon, ben c'est facile pour moi de pouvoir tomber dans le jugement et donc dans l'action. Si je témoigne ma foi, si j'évangélise, et puis que je le fais parce que j'ai discerné que c'est sa volonté pour moi, là, tu sais, alors je suis en paix de le faire, je suis soutenu par lui de le faire, et il justifie mon action, et puis même si c'est jamais vraiment parfait la manière que je rends mon témoignage, j'essaie de mieux en mieux, tu sais, mais je crois dans celui qui justifie. Par contre, quand des fois je me surprends à juger ceux qui font pas assez d'évangélisation, alors là, j'ai glissé de la grâce, et comme les Galates, je me suis retrouvé sous la loi, sans même m'en rendre compte, parce que c'est au nom du bien, et c'est très subtil de glisser de la grâce de Dieu et soudainement de te mettre, comme Paul disait aux Galates, « Comment, vous avez commencé selon l'esprit? Voulez-vous maintenant terminer par la chair? Pensez être capable? » Donc, c'était vraiment la lettre quand il écrit aux Galates. Paul est comme apeuré de voir que ces gens-là peuvent se perdre. Tiens, au nom du bien. Pouvez-vous imaginer ça? Au nom du bien. Parce qu'il leur dit, faites attention, si vous prenez ce chemin-là, soyez pas surpris qu'à un moment donné, vous allez commencer à vous dévorer les uns les autres. Pourquoi? Parce que tu es dans le système à nouveau de jugement plutôt qu'action authentique. L'action authentique découle de la relation que j'ai avec Dieu. Tandis que le jugement découle, je veux mériter qu'on m'admire, qu'on me reçoive, qu'on ne me rejette pas. Tu dépends de ce que tu fais comme étant de l'argent quasiment. Tu achètes les relations. Et dans le Cantique des Cantiques, il nous rappelle que celui qui essaie d'acheter l'amour peut juste récolter le mépris. Donc, en tout cas, si jamais vous avez la chance de relire le paragraphe sur le pharisien, je trouve ça vraiment une bonne exhortation. C'est pour ça, encore une fois, pour terminer, Paul va continuellement, dans toutes ses épîtres, rappeler ce que nous étions. Ce que nous étions. Étant nés de nouveau, nous avons maintenant une nouvelle sorte de vie, mais de toujours apprendre à voir ce que ma chair soit mortifiée. Romains chapitre 6. Afin d'être puissamment fortifié dans mon homme intérieur pour vivre de sa volonté. C'est pour ça que cette semaine, ça a été une semaine où on s'est donné comme thème de rechercher et de demander au Seigneur, révèle-nous ta volonté. Fais-nous marcher dans ta lumière, dans tes œuvres à toi, pas dans les nôtres. Afin qu'on soit vraiment en train de découvrir qui tu es pour nous. Et qui est mon frère? Qui est mon frère Et non pas comment d'être en compétition à une vaine gloire, mais au contraire, comment on devient serviteur les uns des autres. Comment on contribue au succès du prochain. Et ça, c'est trop béni. Donc, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite un très beau dimanche. Et encore une fois, je nous souhaite que le Seigneur nous sorte de nos maisons à un moment donné, qu'on puisse se retrouver ensemble et puis qu'on puisse se voir, se parler, se réjouir ensemble. C'est tellement béni.